Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis très content d'être ici, de vous retrouver pour la deuxième conférence de mon cycle sur la prophétie et l'émancipation sociale. J'espère que vous me pardonnez pour les lacunes du PowerPoint de la première conférence. Je vous promets qu'aujourd'hui, le PowerPoint sera bas marché. C'est la seule promesse que je peux faire aujourd'hui. Je ne peux rien promettre sur la qualité de la conférence, mais au moins le PowerPoint va marcher. Ça, c'est une grande consolation pour moi. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est Machiavel prophétique. Et je vais commencer pour remarquer que Machiavel a vécu sa vie, sa carrière politique et sa vie intellectuelle dans des temps prophétiques, entre la mort de Savonarole, 1498, et la dernière République florentine, de 1527-1530, la République des prophètes, parce que la dernière République florentine a été une république soutenue, inspirée par un très fort langage prophétique. Alors, la question que je voudrais discuter avec vous ce soir est très simple. Machiavel, y a-t-il répudié l'esprit prophétique de son temps ou l'a-t-il ravivé et réinterprété? Or, pour poser la même question différemment, Machiavel a-t-il répudié la prophétie, ou la prenait-il justement très au sérieux? Et était-il lui-même un prophète de la rédemption politique? Était-il lui-même un prophète de la rédemption politique? Nous allons discuter ces questions. Et je vais concentrer premièrement sur les opinions de Machiavel, sur la prophétie et sur le prophète. Ensuite, je vais examiner son langage prophétique. Sur la prophétie et le prophète, si nous examinons la littérature critique, la réponse à la question que j'ai posée est un non définitif. L'opinion dominante dans la littérature et même dans la culture internationale. L'opinion dominante est que Machiavel s'est moqué des prophètes et qu'il était plutôt un scientifique, le fondateur de la science politique ou le fondateur du réalisme politique. Mais leurs œuvres de Machiavel, si nous les lisons avec attention, nous révèlent une réalité bien différente. Pour commencer, il y a au moins un témoin, un ami de Machiavel, Filippo Casavecchi, officier de la République, qui a appelé Machiavel prophète dans une lettre du 17 juin 1509. Sauf après suite d'un grand succès politique de Machiavel, quand Machiavel avait persuadé les gouverneurs de Florence d'instituer une milice dans la République de Florence. Casavecchia lui dit: « Tous les jours, je découvre que tu es le plus grand prophète qui ont eu même les Hébreux et toute autre nation. » Pourquoi Filippo Casavecchi appelle Machiavel prophète? Non, ce n'est pas parce que Machiavel avait prévu des événements, non, simplement parce que Machiavel, comme les prophètes de l'Ancien Testament, il avait critiqué sévèrement les vices de ses concitoyens et avait cherché de leur apprendre comment corriger ces vices. Même si les concitoyens n'étaient pas prêts à recevoir ses conseils, et apprendre pour eux-mêmes. Oui, c'est une trace intéressante, mais ce n'est pas suffisante pour répondre à la question que j'ai posée, c'est-à-dire, Qu'est-ce que Machiavel pensait des prophètes et de la prophétie? Alors, je crois que c'est sage de nous concentrer sur les considérations de Machiavel pour, quand il parle de la prophétie en général. Et son idée est que si les hommes étaient sages, ils pourraient connaître l'ordre des temps, les temps, et être capables, ils seraient capables de changer leur conduite politique en accord avec le temps. Mais quand il parle des prophètes, c'est vrai, il admet la possibilité de comprendre le temps, le sens du temps. Mais quand Machiavel parle des prophètes, souvent il emploie sa terrible ironie. Par exemple, dans une lettre à son ami Vettori du 10 décembre 1513, Machiavel ridicule un frate Francesco da Montepulciano, un élève de Savonarola, qui avait une certaine célébrité en tant que prophète. Mais dans un autre texte, un petit poème d'Eromiti, qu'il a écrit environ 1519, il traite des prophéties prédisant des inondations imminentes et des cataclysmes, des prophéties qui avaient semé la terreur à travers l'Italie. Et cette fois encore, Machiavel n'est pas du tout terrifié par les prophéties, mais il considère plutôt cette inondation comme une opportunité pour certaines distractions érotiques. Quand il parle, il prétend surtout que les étoiles, par leur influence, doivent faire tomber tant de pluie que l'univers entier en sera tout couvert. D'après cela, dame aimable et gracieuse, si jamais il vous a plu de vous servir de quelque chose pour vous couvrir, ne vous découvrez pas pour nous faire quelque abri, car le ciel est à tout à fait serein, et je vous promets un joyeux carnaval. Vous voyez, Machiavel n'est pas terrorisé des prophéties de l'alluvion de la fin du monde. Et à la fin de ces petites poésies, il dit, « Et d'ailleurs, celui qui voit le diable véritablement ne le voit pas avec autant de cœur ni si noir. Qui vede il diavolo da davvero lo vede comme un corna e manco, nero. » Il n'y a pas de s'inquiéter, nous dit Machiavel, quand il parle des prophéties qui circulaient à l'époque. Mais Machiavel accepte cependant l'idée que j'ai discutée dans ma première conférence, c'est-à-dire que les poètes sont imbus d'un pouvoir prophétique spécial. Les poètes sont souvent prophètes. Où est-ce qu'il dit ça? Où est-ce qu'il discute ça? Il parle de cette idée de la prophétie, de la poésie prophétique dans les histoires florentines, l'œuvre qu'il a composée en vers 1523. Là, il parle d'un noble de Rome, M. Stefano Porcari, citoyen de Rome, noble, qui avait conçu le désir d'attendre la gloire du monde. Et pour obtenir la gloire, il avait pensé que c'était possible de libérer, émanciper Rome du gouvernement corrompu de l'Église et de réinstituer, de restaurer les anciennes institutions républicaines. Une idée absurde, folle, évidemment. Et Machiavel écrit, Porcari était convaincu que la corruption du clergé et le mécontentement des barons et de la population entière de Rome étaient des conditions suffisantes pour le succès de l'entreprise de libérer Rome de la tyrannie du clergé corrompu. Mais Machiavel fait ici une autre observation très importante, c'est-à-dire que Porcari, il était inspiré par des vers de Pétrarque. Et les vers de Pétrarque sont là. Au sommet de Montarpeio, au canzone, tu verras un chevalier honoré de toute Italie qui s'occupe des autres avant de s'occuper de lui-même. C'est-à-dire que Machiavel interprète l'action de Stefano Porcari, son attente de libérer Rome, comme une action inspirée par les vers de Pétrarque, par les mots de Pétrarque, le poète prophète par excellence. La prophétie de Pétrarque ne fut jamais réalisée. Stefano Porcari fut capturé et exécuté. Et Machiavel lui remarque que Stefano Porcari manquait de sagesse politique. C'est vrai, il le dit ça. Manquait de sagesse politique. Pourtant, Machiavel y reconnaît que les prophéties poétiques, comme la prophétie de Pétrarque, a eu le pouvoir d'inspirer une action politique qui avait pour but de racheter les hommes de la servitude et de la corruption. Et puis, dans le discours sur Livre, Machiavel admet d'une façon explicite la possibilité de prédire des événements futurs en lisant les signes célestes. Son explication tentative de cette possibilité révèle que Machiavel y partage la conviction avec la tradition prophétique qu'on peut reconnaître dans le temps des signes qui nous révèlent le futur. Machiavel, il a écrit « J'ignore d'où cela vient, mais on voit par des exemples anciens et modernes que jamais un grave événement n'est arrivé dans une cité ou un pays sans qu'il n'ait été annoncé par des devins, des révélations, des prodiges ou d'autres signes célestes. » En plein accord avec le langage de la tradition de la théologie poétique et de la théologie poétique, donc, Machiavel insiste sur la possibilité d'interpréter les signes célestes, les signes qui nous viennent du ciel. Mais ce sont évidemment les réflexions sur Savonarole qui nous le révèlent, que Machiavel reconnaissait le pouvoir des prophètes et des prophéties. C'est vrai qu'avec l'irrévérence typique de Machiavel, Machiavel parle de Girolamo Savonarola, les prophètes par excellence de son époque, d'une manière pas tellement édifiante. Dans une lettre très connue de 9 mars 1400, 98, Machiavel révèle la stratégie politique de Savonarole et il le dénonce d'une façon explicite de menteur. Machiavel, dans cette lettre, il dit explicitement que Savonarole était un menteur. Et il fait, et plus tard, dans Les Princes, environ 1513, il retourne sur Savonarole. Et il écrit le passage que tout le monde connaît. La distinction entre les prophètes armés qui ont été capables de vaincre et les prophètes non armés. Machiavel écrit, de cela nous concluons que tout prophète victorieux fut armé, tandis que ceux qui étaient non armés ont connu la ruine. Car, dehors de ce qui a été dit, l'homme est capricieux par nature. Il est facile de convaincre l'homme de quelque chose, mais difficile de lui faire tenir cette conviction. Donc, les affaires devraient être gérées de telle façon que, quand les hommes cessent de croire, nous pouvons utiliser la force pour les faire croire, pour costringerli a credere. Moïse, Cyrus, Thésée, Romulus, n'auraient pas pu se faire respecter s'ils n'avaient pas été armés, comme ce qui arrivait de notre temps au frère Girolamo Savonarola, qui fut ruiné dans sa nouvelle institution, c'est-à-dire le gouvernement populaire de Florence, le gouvernement républicain de Florence, institué en 1494. Lorsque le peuple arrêta de croire en eux, comme il n'avait aucun moyen de maintenir le soutien de ceux qui avaient cru en lui, ni de convertir les incrédules. Mais comme ces citations l'indiquent, Machiavel n'adopte pas l'idée que Girolamo Savonarola parlait et vraiment à Dieu. Sur ce sujet, Machiavel reste un peu vague. Il dit seulement que tout le monde était persuadé que Savonarola parlait avec Dieu. Ce n'est pas sur ce sujet que Machiavel va donner son jugement le plus clair. Mais il nous dit que, quand il s'agit de Moïse, c'est certain que Moïse parler avec Dieu. En effet, Machiavel écrit que Moïse était capable, bien qu'on ne doive pas parler de Moïse, n'était qu'un vrai exécuteur des choses ordonnées de Dieu. Toutefois, il mérite que l'on l'admire, ne fût-ce que pour cette grâce qui lui le faisait digne de parler avec Dieu. Mais qu'est-ce que Machiavel exactement a dit dans ce passage sur Savonarola et Moïse? Machiavel, il voulait convaincre ses lecteurs que la sainteté de la vie, l'érudition, l'éloquence pouvaient transformer un homme en prophète et que les prophéties pouvaient aider à engendrer des grandes actions politiques. Machiavel, il voulait aussi convaincre ses lecteurs que les prophètes sont arrivés et peuvent arriver dans le futur. C'est vrai, pour Machiavel, le prophète doit être armé. Son modèle est Moïse. Le prophète doit être armé s'il veut accomplir le travail, l'œuvre, défendre un nouvel ordre politique et conduire son peuple vers l'émancipation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'émancipation politique d'un peuple. Et pour Machiavel, le prophète doit être armé. Mais le fait que Machiavel insiste que le prophète doit être armé pour être capable de conduire son peuple vers l'émancipation politique ne veut pas dire que Machiavel dénigre le pouvoir de la prophétie. Un prophète armé, un ami de Dieu, je vais revenir sur ce sujet, l'amitié de Dieu, un ami de Dieu qui peut instiller dans le peuple la détermination de se battre pour leur rédemption politique et morale, comme nous le verrons plus tard, est encore un prophète. Un prophète armé est un prophète. Dire que le prophète doit être armé ne signifie pas dire que la prophétie, le langage prophétique n'est pas important. S'il y a eu des prophètes armés ou non armés, d'autres viendront, peut-être plus tard, pour accomplir la mission de rédemption politique et sociale. Ça suffit de lire la conclusion de la discussion de Machiavel sur Savonarole et sur la prophétie, dans les discours sur l'île. Que personne ne désespère donc de pouvoir faire ce que tant d'autres ont fait, car tous les hommes, ainsi que nous l'avons dit, en commençant, ils naissent, ils vivent et meurent suivant les mêmes lois. Donc, comme la citation le montre très bien, Machiavel espérait que d'autres prophètes pourraient reprendre, continuer la lutte pour la rédemption politique. La critique de Machiavel à Savonarole, quand il dit que il n'a pas vaincu parce qu'il n'était pas armé. C'est pas une critique à la prophétie au prophète. Au contraire, toute la discussion termine avec l'espoir de voir encore des prophètes arriver. Mais jusqu'ici, j'ai examiné les pensées de Machiavel par rapport aux prophètes et aux prophéties. Mais a-t-il aussi, Machiavel, et directement écrit des passages prophétiques? Qu'est-ce que nous pouvons trouver dans les textes de Machiavel? Des passages prophétiques, des passages qui sont typiques du langage de la prophétie. Nous en trouvons beaucoup dans ces textes. Et les premiers indices de la capacité de Machiavel d'employer le langage prophétique, c'est dans le texte qu'il a écrit environ en 1603. C'est un texte qu'il a écrit pour les gonfaloniers de Florence Soderini. Le sujet de ce texte est de convaincre le gouverneur de Florence de passer une loi pour donner de l'argent pour une milice florentine. Parce que pour la République de Florence, le problème était le plus grave, était que Florence n'avait pas une armée. Elle devait se servir des mercenaires. Alors, dans ce texte, regardez ce que Machiavel dit. C'est une thèse, je le répète, pour persuader les gouverneurs de Florence à passer une nouvelle loi et donner de l'argent pour la création, l'institution d'une milice. Machiavel ici dit, je ne cite pas tout le passage parce qu'il est trop long, car je vous dis, la fortune ne change pas d'avis. Là, on ne change pas de disposition. On ne change pas de disposition. Et les cieux ne veulent ni ne peuvent soutenir une chose qui veut s'effondrer de toute façon. Les cieux, pourquoi il parle des cieux? Des cieux qui veulent ou peuvent, c'est-à-dire l'intervention de la providence divine sur la terre. Il dit à ses amis, à ses compatriotes florentins, que s'ils ne changent pas leur manière de penser, les cieux ne seront pas là à les aider, parce que les cieux ne veulent et ne peuvent pas aider ceux qui ne sont pas capables d'aider eux-mêmes. Dans un autre poème, L'ambition de Tercé, composé un peu plus tard, 1509, après une longue lamentation sur la condition misérable des Italiens, Machiavel, cette fois, prédit de nouvelles guerres, de nouvelles tragédies pour la Toscane. Le seul espoir est l'intervention d'une Machiavel, d'une grâce divine, pour assister le peuple florentin, ou sinon que le peuple sera finalement capable de se reprendre en charge politiquement. Et encore une fois, c'est fascinant de lire les mots même de Machiavel quand il écrit et elle a tandis que mon esprit et mes paroles se plongent dans les malheurs d'autrui. Je me sens oppressé par une crainte bien plus grande. J'apprends que l'ambition, avec cette escorte cruelle que le ciel lui donna, en partage à la naissance du monde, survole cette heure le monde de la Toscane, et qu'elle a déjà semé tant d'étincelles parmi les habitants de cette ville malheureuse, contrée toujours si pleine d'envie, qu'elle brûlera et leur ville et leur campagne, si la miséricordie du ciel, la miséricordie du ciel, mais c'est un langage prophétique parfait, Il invoque la miséricorde du ciel, où une discipline plus sévère ne parvient pas à étouffer cet incendie. Et il y a des autres traces encore dans le texte de Machiavel, surprenant. Par exemple, dans un autre poème, Machiavel, vous savez, il n'a pas été un grand poète, mais il aurait aimé d'être considéré un poète. Il a écrit des poésies, plusieurs poésies. Il y en a une qui raconte l'histoire de l'Italie de 1504-1514. C'est un texte inachevé. Et là, Machiavel, il résume les événements politiques italiens dans les derniers 10 ans. Mais disons le langage qu'il use ainsi. Il parle comme ça. Le grave événement, les actions furieuses qui ont eu lieu dans les dix années éculées depuis que j'ai posé la plume, parce qu'il avait écrit un autre poème pour me taire, les changements des royaumes, d'empires et d'états qui se sont succédés dans les sites italiques et que les desseins d'en haut, le consiglio divin predestinati, consiglio divin predestinati, c'est-à-dire les conseils de Dieu, les événements décidés par les conseils divins de Dieu, avaient voulu. Voilà ce que je vais chanter. Je vais chanter les événements qui ont été décidés par les conseils devant de Dieu. Mais les textes où Machiavel a vraiment parlé comme un prophète, c'est le texte qui a été considéré, il est encore considéré, le livre fondateur du réalisme politique, c'est-à-dire Le Prince, le texte qu'il a écrit, à mon avis, entre 1613 et le début de 1614. Avant de... Dans ce texte, comme vous le savez, Machiavel écrit une exhortation à s'emparer de l'Italie et à la délivrer des barbares. Exhortatio ad capescendam Italia. C'est le dernier chapitre du Prince. Machiavel révèle dès le début qu'il s'est demandé souvent si le moment était venu pour l'arrivée d'un rédempteur. Il le dit, je me suis demandé, si le temps était mûr pour un rédempteur capable d'émanciper l'Italie de sa condition de servitude et d'oppression. Elle conclut que le moment est venu. Comme un prophète, je me suis demandé si le temps était mûr pour un rédempteur et y répondre que le moment est venu. Comment est-ce que Machiavel peut dire ça? Parce qu'il interprète les signes de ce temps. Et il fait une comparaison entre la condition de l'Italie et celle de la condition d'autres peuples de l'Antiquité qui attendent la rédemption. En considérant le chemin que devrait suivre l'Italie, Machiavel en dit qu'il désigne le livre de l'Exode comme l'exemple à suivre. Et il désigne Moïse comme la guide idéale, l'exemple de Moïse, comme l'exemple qu'il faut suivre, l'exemple qu'il espère, le type de rédempteur qu'il espère que Dieu enverra pour répondre aux prières du peuple italien. Ce que Machiavel voit dans son époque ne sont pas des faits, sont des signes qui suggère la présence de quelque chose de plus profond qui reste à dévoiler. Un mot me paraît particulièrement révélateur. Quand il dit Specchiatevi, il dit Zitran, specchiatevi, regardez-vous dans le miroir. Mais la métaphore du miroir est typique de la littérature prophétique. Regardez l'histoire dans le miroir de Dieu. C'est une façon de parler typique de la littérature prophétique. Pour signaler les dons des prophètes, les dons que les prophètes ont, de voir, de trouver des représentations du dessein, de la volonté de Dieu dans l'histoire. Regardez dans le miroir de Dieu. Machiavel n'utilise pas ici les mots « guardate », »,« regardez » ou « considerate », »,« examinez », »,« considérez ». Il utilise les mots « specchiatevi », »,« regardez »,« regardez-vous » dans le miroir. Mais examinons mieux le texte de Machiavel. Et là, vraiment, on trouve des surprises. Des surprises qui révèlent le langage, la présence d'un langage prophétique. Par exemple, quand il y a un passage, il dit que peut-être il se réfère à Cesare Borgia. Et quand il dit, bien que jusqu'ici se soit montré en quelqu'un quelques lueurs qui pouvaient faire juger qu'il avait été ordonné par Dieu pour sa rédemption. Il dit, nous avons vu quelqu'un, nous avons vu des exemples qui paraissent indiquer que quelqu'un avait été ordonné par Dieu pour la rédemption de l'Italie. Ordonné par Dieu, mais seulement les prophètes sont ordonnés par Dieu. Seulement ceux qui ont obtenu l'amitié de Dieu sont ordonnés par Dieu. Seul un prophète ou quelqu'un qui parle comme un prophète peut écrire que Dieu a ordonné, a donné des ordres à quelqu'un. Comment tu peux faire à dire une chose comme ça? Ça, c'est un langage prophétique. De plus, Machiavel n'hésite pas à promettre l'amitié de Dieu à celui qui saurait apporter la rédemption à son peuple. Regardons le texte. Bien que ces hommes, il parle de Moïse, de Cyrus, de Théséus, bien que ces hommes soient exceptionnels, qui sont les hommes exceptionnels? Les rédempteurs, ceux qui ont été capables de guider, de produire la rédemption politique de leur peuple. Bien que ces hommes soient exceptionnels et admirables, néanmoins, ils furent des hommes. Et chacun d'entre eux eut une moindre occasion que la présente. Car leur entreprise ne fut pas plus juste que celle-ci. Quelle entreprise ? L'émancipation, la libération de l'Italie, la rédemption de l'Italie est juste. C'est ni plus facile, et Dieu ne leur fut pas plus ami qu'à vous. Dieu ami. Ah, mais c'est une expression sur laquelle il faut que je m'arrête un peu. L'amitié de Dieu. L'expression ami de Dieu, amicus Dei, se trouve dans la Bible. Et Marsilio Ficino, le philosophe néoplatonicien, il a parlé de l'amitié de Dieu dans un texte que Machiavel connaissait très bien, De Amore, et dans des lettres. Mais Machiavel souligne aussi, et ça c'est un autre aspect de la question sur laquelle il faut que nous nous arrêtons, que Dieu ne veut pas faire tout lui-même. Donc l'amitié de Dieu, c'est quelque chose qui aide l'effort de rédemption politique. Mais les peuples qui veulent obtenir la rédemption doivent s'engager, doivent mériter la rédemption. Et voilà le texte de Machiavel. Le reste, c'est à vous de le faire. Dieu ne veut pas tout faire. Ça veut dire, vous ne pouvez pas attendre que Dieu vous donne la rédemption, l'émancipation. C'est vous qui devez gagner, mériter votre rédemption. Et Dieu sera votre ami si vous méritez l'amitié de Dieu. Ça veut dire si vous luttez pour une cause juste. Dieu donne l'amitié à qui? À qui sont semblables à lui, c'est-à-dire à ceux qui aiment la justice. L'amitié de Dieu est basée sur le fait qu'il y a des hommes qui partagent l'amour de Dieu pour la justice. Et puis regardez la motivation que Machiavel donne. Dieu ne veut pas tout faire pour ne pas nous ôter notre libre arbitre. Ça veut dire, si Dieu fait tout pour nous, où s'en va notre libre arbitre? Et puis, il ne veut pas tout faire pour ne pas nous ôter d'une part de cette gloire qui nous revient. Alors, une part de la gloire de la rédemption va au peuple qui est capable d'attendre la rédemption, d'accord? Et l'autre part de gloire, à qui va-t-elle? Mais à Dieu. Ça veut dire que Machiavel ici dit que les peuples qui sont capables de gagner, de mériter leur rédemption politique en luttant pour la justice, sont des peuples qui sont capables d'attendre la gloire pour eux-mêmes et pour Dieu, parce qu'ils réalisent le plan de Dieu sur la terre. Ici, Machiavel parle comme un prophète. Il n'y a pas de question. Mais il faut que je discute une objection, une critique très sérieuse. Mais les prophètes, la prophétie, c'est inspiration ou révélation divine. Mais tous les prophètes, commençant par Savonarole, ont dit qu'ils sont inspirés par Dieu. Ils le disent ouvertement. Jamais Machiavel a écrit que Dieu lui servit d'inspiration. Jamais. Il n'y a aucun texte. C'est une différence importante avec la prophétie traditionnelle. Par contre, dans la lettre célèbre du 10 décembre 1513, qu'est-ce que Machiavel nous dit, nous révèle, cette lettre à Vettore? Il dit que le prince est en grande partie le résultat de ce dialogue, de ces conversations avec les anciens hommes de l'Antiquité, les Moïse, Cyrus, Thésée, le fondateur d'État et le rédempteur, c'est-à-dire les héros, les vrais héros de Machiavel, sont les fondateurs d'État et les rédempteurs. Machiavel, dans cette lettre, nous dit que il demande à les grands hommes, aux grands hommes de l'Antiquité, les mobiles de leur action. Et eux, en vertu de leur humanité, lui répondent. Et quand ils répondent à Machiavel, mon interprétation est qu'ils, les grands hommes de l'Antiquité, avec lesquels il est en conversation, ont inspiré à Machiavel les visions de rédemption qu'il a ensuite révélé à ses concitoyens. Et ici, je pense qu'il y a la question centrale, la parole qui nous révèle l'importance de la tradition prophétique pour Machiavel. Lisons qu'est-ce qu'il a dit. Décemment habillé, j'entre dans la cour la cour antique des hommes de l'Antiquité. Et là, aimablement accueilli par eux, je me nourris de l'aliment, de la nourriture qui par excellence est la mienne et pour lesquelles je suis né. Il faut le lire aussi en italien. Venuta la sera, mi ritrovo in casa ed entro nel mio scrittoio. E in sull'uscio mi spoglio della veste quotidiana piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali. Rivestito condecentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo, je me nourris de l'aliment, di quel cibo, se le texte originale, che solo è mio, e io nacqui per esso. D'où vient la métaphore de la nourriture, de quel cibo? Je crois, et je l'ai appris du professeur Carlo Ossola, que sa métaphore vient de Dante. C'est Purgatorio 31, 128, 129. L'anima mia gustava quel cibo. Le même mot, quel cibo, quel, in Dante, quel cibo, in Machiavelli. Che saziando di sé la seta, mon cœur, j'espère que je l'ai mis ici, ah, c'est vrai, mon cœur goûtait ces nouvelles viandes qui, rassasiant la faim, ravive. L'anima gustava quel cibo. Quel est l'essence de cette métaphore de la nourriture? Quel cibo. Il y a des autres sources. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Ézéchiel, Apocalypse, je prends ces références du texte du professeur Ossol, les copistes et les prophètes, un texte pour moi vraiment utile, extraordinaire. Mais analysons les sens du langage de Machiavel. Machiavel parle de la nourriture qui a le pouvoir de régénérer, de faire renaître l'esprit d'une personne ou d'un peuple. C'est une nourriture qui te donne la force, l'espoir. Et ça, c'est exact, mais ça, c'est pour un peuple ou pour un individu. Et qui peut donner cette nourriture? Mais c'est les prophètes. Seulement les prophètes peuvent donner cette nourriture. La nourriture que Machiavel, parlant en tant que prophète, donne à ses compatriotes, c'est la force morale pour gagner la rédemption. C'est une sagesse, ce que Machiavel donne. Pas seulement de la prudence, la sagesse, la motivation, la force morale, les cibo, la nourriture, la métaphore de la nourriture, ici, a ce sens. C'est-à-dire que Machiavel, inspiré par les grands qui sont devenus similaires à Dieu, inspiré par les grands hommes, Machiavel emprunte les vers, maintenant, a besoin de terminer son message. Le message, je répète, un message de rédemption politique. Machiavel veut faire renaître les Italiens, émanciper l'âme des Italiens de la servitude et émanciper son âme de la solitude, du désespoir. Ma femme, Gabrielle, qui attend le séminaire d'exégèse biblique à l'église méthodiste de Saint-Luc à Ostie, m'a fait remarquer que les prophètes ne peuvent pas créer, seulement Dieu est créateur. Mais les prophètes peuvent faire renaître quelque chose, renaître l'espoir, renaître l'amour pour la liberté, renaître le désir de vivre libre. Et les prophètes peuvent le faire avec la force des mots, avec la parole. Bon, mais qui est capable vraiment de faire ça? Nous l'avons vu dans la première conférence. Les poètes, il faut un poète pour Machiavel. Et comment est-ce que Machiavel termine les Princes? Le livre qui a été considéré le texte principal du réalisme politique. Machiavel fait parler, et il fait parler un poète. Et précisément Pétrarque, le poète, prophète. Comment est-ce que les Princes terminent? Avec les vers de Pétrarque. La vertu s'emparera d'armes pour utiliser contre la fureur et la bataille sera brève car l'ancien courage n'est pas encore mort dans le cœur italien. La bataille sera brève, c'est une prophétie, c'est un langage prophétique parfait. Virtù contra furore prenderà l'arme, fil combatter corto, che l'antico valor nell'italici cor non è ancora morto. C'est vrai, la prophétie avec Machiavel, avec laquelle Machiavel termine Le Prince, est la plus inspirée qu'il a écrite. Et la plus inspirante, on le verra dans les prochaines conférences. Mais elle n'est pas la seule prophétie qui se trouve dans ses œuvres. Par exemple, dans l'autre œuvre, le discours sur l'île, Machiavel nous offre un exemple vraiment remarquable d'interprétation prophétique des événements historiques. Dans le texte de Livre, historien de Rome, livre 1, chapitre 18, Livre parle de la décision du Sénat romain d'élire Numa après Romulus, comme deuxième roi de Rome. Numa est le roi prêtre, sacerdote, il avait institué les rituels religieux. Or, dans le texte de Livre, il n'y a aucune mention d'intervention divine, d'inspiration divine. C'est trop long la citation, je vous épargne, mais vous pouvez la contrôler dans le texte de Livre. Mais quand Machiavel parle de ce texte de Livre, c'est-à-dire de la décision du Sénat romain d'élire, de choisir Numa comme successeur à Romulus, qu'est-ce que Machiavel écrit? Il écrit comme ça. Bien que Rome ait eu Romulus pour premier législateur et qu'elle lui était redevable comme une fille de sa naissance et de son éducation, cependant les cieux estimèrent que les institutions romaines n'étaient pas suffisantes pour tel empire. Ils inspirèrent au Sénat romain l'idée d'élire Numa Pompilius comme successeur de Romulus, afin que celui-ci aurait oublié ce que celui-ci aurait oublié, soit réalisé par Numa. Et encore une. C'est-à-dire, Machiavel, le texte de Livre, il parle d'une décision politique. Mais quand il interprète, il écrit son commentaire sur le texte de Livre, il ajoute les cieux qui inspirèrent. Inspiration des cieux. Sur, et les textes italiens, même plus éloquents encore, parce que le texte italien dit inspirarono nel petto del Sénat, dans le cœur du Sénat romain. Et c'est exactement comme la manière d'agir de l'inspiration divine. L'inspiration divine touche la volonté, le cœur et la raison. Donc, il y a des autres évidences, mais je vais terminer. C'est trop amusant. Il y en a une que je ne peux pas vous épargner. Machiavel, dans les histoires florentines, il raconte d'une grande tempête qui avait désolé et ravagé la campagne toscane autour de Florence. Alors, il dit... Partout, les lamentations des gens qui voyaient leurs propriétés détruites, qui, sous les décombres, laissaient leur bétail et leurs parents morts. Et chez tous ceux qui voyaient et entendaient cela, la pitié, l'épouvant le plus profond. Où est-ce que Machiavel a tiré cette information? Selon moi, ce sont des sources orales. Je n'ai pas trouvé de sources écrites de cet événement, qui, vraiment, peut-être, il était inscrit dans la mémoire collective de la Toscane. Mais qu'est-ce que Machiavel ajoute? Il donne un sens prophétique à un événement naturel. Dieu voulut sans doute menacer plutôt que châtier la Toscane. Car si au lieu d'exercer ses ravages au milieu d'arbres et d'habitation, et par cette horrible tempête, soufflée avec la même furie dans une ville peuplée de maisons et d'habitants, l'imagination peint à calculer tous les désastres qu'elle y aurait causés. Mais Dieu se contenta de cet exemple pour ranimer dans le cœur des hommes le souvenir de sa puissance, une interprétation prophétique parfaite d'un événement naturel. Alors, c'est le temps de terminer. Pour terminer, je veux citer une lettre que Machiavel a écrite en octobre 1525. La condition politique de l'Italie était à l'époque terrible. L'empereur Charles V était prêt de gagner le contrôle sur toute l'Italie. Il apprend Machiavel à l'époque, il travaille avec Francesco Guicciardini, qui était gouverneur des villes de Modena, Reggio Emilia, et il avait la responsabilité militaire et politique des armées du pape. Alors, quand Machiavel reçoit, il apprend que Milan a été prise par les troupes de l'empereur, il écrit à Guicciardini, Sic datum de super, a été décidé en août. Il n'y a rien à faire. Il voulait faire entendre Machiavelli que puisque la chute de Milan et la défaite du pape qui suivit avaient été ordonnées par Dieu, il n'y avait aucun remède possible. Pourtant, comme les rumeurs s'est propagée d'une révolte du peuple contre les troupes impériales en Lombardie, Machiavel écrit encore à Guicciardini et au pape en mai 1626. Et son exhortation est passionnée et désespérée. C'est une exhortation très semblable à l'exhortation que nous avons lue dans Le Prince. Machiavel, encore une fois, il souligne que Dieu a offert une opportunité unique à l'Italie de s'émanciper d'un pouvoir étranger. Et il recommande vivement de combattre pour l'amour de Dieu, le barbare. Lisons le texte avec un peu d'attention. Pour l'amour de Dieu, ne perdons pas cette opportunité. Pour l'amour de Dieu. Voyez à ce que sa sainteté ne retombe pas parmi ces mêmes périls. Dieu a fait que les choses se passent telles que. Encore, je vais continuer à lire. Délivrer l'Italie de cette longue période d'anxiété. Éradiquer ces brutes sauvages qui n'ont rien d'humain, sauf leur visage et leur voix. Encore une fois, un appel à la rédemption. Encore soutenez-nous avec une référence à Dieu, à la volonté de Dieu. Mais encore une fois, Machiavel parle en vain. Aucun rédempteur n'apparaît en Italie. Suite au pillage de Rome qui commença en mai 1527, l'Italie tombait presque entièrement sous la domination de l'Espagne. Le moment pour les prophéties politiques et la rédemption morale était passé en 1627, quand Machiavel est mort. Et nous, on verra que le temps des espoirs prophétiques était passé dans la prochaine conférence. Merci.